Bonjour, je vais proposer donc un commentaire concernant l'épreuve UE8 de cette année 2017. Je vais commencer par commenter globalement le sujet et ensuite je procéderai dossier par dossier. Alors, le sujet était assez long, bon, mais toutefois abordable hein, sur 4 heures. Les notions qui ont été abordées dans ce sujet sont des notions vues cette année. Il n'y avait pas de grandes surprises quant au contenu. Voilà mon commentaire global. Alors maintenant pour le premier dossier, il s'agissait de retrouver des règles de gestion à partir du MCD. Alors des règles de gestion assez simples, comme juste traduire des cardinalités entre les entités. Je parle de la première question, entre la demande qui est déclenchée et le personnel agence qui travaille dans une agence. Donc là, il s'agissait juste de traduire une cardinalité simple. Ensuite, la deuxième question, bien, on revient sur la notion de spécialisation et de contraintes sur les entités spécialisées. Donc, ce sont des notions qui ont été vues dans les devoirs et dans les lives cette année. Ensuite, vous aviez alors une notion moins vue cette année, mais vue lors du live, une contrainte entre les associations concernées 1 et concernées 2. C'était une contrainte de partition qui précisait, en fait, qui était là pour préciser que la ville de départ ne pouvait pas être la ville d'arrivée. Voilà, vous aviez une demande. Non, c'était une demande qui concernait soit un logiciel, soit un matériel, pardon, à ce niveau-là. Donc vous aviez une contrainte sur l'association, une contrainte de partition. Ensuite, vous aviez une question sur la notion d'entité faible, entité forte, donc la notion d'identifiant relatif avec les entités suivies et demandes. Donc vous aviez la cardinalité 1-1 entre parenthèses au niveau de l'entité suivie, qui traduisait le fait que l'identifiant suivi est un identifiant relatif par rapport à la demande. Donc notion vue également cette année. Ensuite, pour dernière question sur les règles de gestion. Dans le dossier 1, on vous demandait de commenter en fait une association qui était porteuse d'une propriété. Donc je fais référence à l'association traitée où vous aviez la propriété nombre d'heures. Donc là, il s'agissait juste de traduire ce que représente cette propriété dans l'association traitée, toujours à l'aide des cardinalités. Ensuite, on passe aux requêtes SQL. Alors, elles étaient assez nombreuses, hein, on vous en demandait pas mal. Mais les requêtes étaient assez simples. La seule fonction qui a été demandée au niveau du SQL a été la fonction count, hein, de dénombrement. Donc, la première question est la première requête est une requête qu'on a déjà vue sous une autre forme, hein, dans un autre contexte. La deuxième était plutôt une requête imbriquée. Donc vue également cette année. La troisième, donc c'est pour cette requête et pour la troisième et la quatrième où l'on vous demandait d'utiliser la fonction count, donc de dénombrement, hein, il ne s'agit pas de la fonction somme. Alors la requête D était un petit peu plus compliquée dans la mesure où en fait ici il s'agissait de regrouper les données par type de matériel et ensuite de faire une sélection sur ces groupes, en fait, sur le dénombrement de matériel. Donc, fallait utiliser les clauses group by et having. Donc, je sais que ça vous posait un petit peu problème cette année pour les requêtes SQL. Voilà, c'était la seule difficulté au niveau des requêtes. La requête E était une requête à action de suppression. Et la dernière requête, en fait, on vous donnait le tableau, c'est-à-dire le résultat de la requête SQL, et on vous demandait, en fait, de réécrire la requête qui permettait d'obtenir ce tableau. Donc ça, ce sont des notions qui ont été déjà vues aussi dans les devoirs. Je passe au deuxième dossier, donc concernant Excel. Une première question de cours a été posée sur les références relatives et absolues. Question que nous avons vue en live et que vous avez vue également en cours et sur lesquelles on est revenu quand même puisqu'il y avait eu pas mal de questions sur justement cette notion de référence relative et absolue et pourquoi choisir l'une ou l'autre. Donc là, on vous demandait de retraduire ce qu'était une référence mixte. D'accord ? Et donc on parle de référence mixte lorsqu'il y a une combinaison de références relatives et absolues. Ensuite, pour les fonctions Excel, les fonctions demandées étaient couramment utilisées cette année. Hein. Donc il n'y avait pas de surprise par rapport à ces fonctions-là. La fonction recherche verticale. Ensuite, la fonction année dont on vous rappelait la syntaxe. La fonction NBC. La fonction si et somme. Donc voilà, et à ce niveau-là, il n'y avait pas vraiment de surprise. Donc on vous nommait certaines plages de données, et on vous demandait de les utiliser donc dans les fonctions. Ensuite, on vous a introduit une nouvelle fonction qui justement n'était pas censée être connue cette année, et on vous en donnait en fait la syntaxe pour vous évaluer sur votre façon de traduire en fait la syntaxe d'une nouvelle fonction Excel. Donc on vous donnait l'intitulé de la fonction avec la syntaxe et on vous demandait à vous de renvoyer le résultat de cette fonction sur une cellule. Donc il s'agissait de la fonction SOMSIENS. Ensuite, on vous demandait pourquoi des erreurs étaient produites. Donc, cela faisait référence en fait à la première question, la notion de référence relative et absolue. Voilà donc pour la partie Excel. Ensuite, pour la partie algorithme. Donc, on vous demandait une bonne question. Qu'est-ce qu'un algorithme? Avant de vous demander d'écrire l'algorithme en question. Donc ça, c'est une notion qui a été également vue, donc à laquelle vous pouviez répondre. Ensuite, on vous demande d'écrire un algorithme qui permettait de déterminer le salaire mensuel de chacun des intervenants, le nombre étant indéterminé. Alors, à partir du moment où on vous a dit que le nombre était indéterminé, il fallait donc prévoir une boucle sur les intervenants. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait prévoir un ensemble de traitements tant qu'il y avait un intervenant à traiter. Donc un premier calcul était demandé sur le nombre total d'heures. Et ensuite, eh bien, des notions qui ont été déjà vues également avec un si, alors, sinon, vous aviez un premier calcul du nombre total d'heures et ensuite au-delà de 152 heures, entre 152 et 186, vous aviez une majoration de 25% du taux horaire et au-delà de 186 une majoration de 50%. Donc là il fallait utiliser la structure couramment utilisée cette année, si alors sinon, donc en fonction de la fourchette dans laquelle on se trouvait. Et ensuite, à ce salaire, à ce premier salaire calculé, il fallait ajouter une prime en fonction du nombre d'heures de maintenance de logiciel. Donc toutes les variables de l'algorithme étaient données dans un tableau, donc vous n'aviez pas à les repréciser dans l'algorithme, mais il fallait les utiliser dans le corps de l'algorithme. Voilà. Donc l'algorithme n'était pas vraiment compliqué. La seule difficulté, voilà, c'était de traduire la fourchette, en fait, la majoration en fonction du nombre d'heures. Voilà. Voilà pour la partie algorithmique. Ensuite, pour le troisième dossier, alors il y avait une première question de cours, qu'est-ce qu'un schéma normalisé? En fait, tout au long de cette année, surtout dans la première partie en fait des cours, on vous faisait passer du dictionnaire de données à la couverture minimale et ensuite au MCD et au MLD. Et en fait, cette couverture minimale, en fait, vous permettait de normaliser le schéma relationnel. Donc là, il fallait rappeler que l'objectif d'un schéma normalisé était de construire une base de données cohérente, sans redondance de données. Je l'ai très très régulièrement répété cette année. Donc voilà l'objet de la normalisation du schéma relationnel. Ensuite, on vous demandait, alors la partie MCD, là, était assez simple cette année parce que il ne s'agissait pas de modifier un LCD, rajouter des règles de gestion, mais en fait on vous donnait un schéma relationnel et il fallait en fait retraduire ce schéma relationnel sous forme de MCD. Auquel, une contrainte a été rajoutée, une contrainte d'exclusion entre deux associations, le fait qu'une étape parte d'une ville et arrive à une autre. Donc, traduisait le fait qu'il fallait introduire une contrainte d'exclusion entre les deux associations par deux et arrive à. Donc, mis à part cette contrainte entre associations, en fait, il s'agissait vraiment que de traduire le schéma relationnel en MCD. Donc là, il n'y avait vraiment pas de difficulté. Les règles de gestion qui étaient données sous forme de texte sous le schéma relationnel étaient déjà respectées au niveau du schéma relationnel. Les questions pouvaient éventuellement se poser sur les cardinalités minimales, hein. Je parle de circuit vers étape, mais bon, à partir du moment où on parle de circuit, ben, un circuit comprend au moins une étape, et au plus n, donc les cardinalités étaient plutôt de 1n. Et ensuite, une étape, si elle est dans ma base de données, c'est qu'elle fait partie d'au moins un circuit, voire plusieurs. Donc les cardinalités étaient de 1n. Alors, pour finir avec un quatrième dossier sur des questions de cours orientées réseau. Alors, la première question, l'architecture client-serveur, les avantages et les inconvénients. Nous avions vu cette question lors d'un live sur les réseaux. Donc, j'espère que cette question a été bien abordée, hein, avantages et inconvénients de ce type d'architecture. Ensuite, la classe d'adresse IP utilisée était la classe C, donc c'est pareil, c'est une question qui a été régulièrement vue dans les devoirs. Alors, il fallait se souvenir à quoi sert un masque de réseau et comment calculer le nombre, comment calculer l'adresse du réseau et l'adresse de l'hôte à partir du masque. Donc là, il fallait se souvenir que les trois premiers octets consistaient donc à adresser le réseau et le dernier octet consistait à adresser l'hôte. Alors, donc vous aviez 2 puissance 8 possibilités, donc 256, auxquelles il faut toujours retirer deux adresses, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Ensuite, une troisième question sur le serveur DHCP. J'en ai parlé également lors d'un live, hein. C'est un serveur qui délivre des adresses IP aux ordinateurs pour une durée déterminée. Donc l'avantage de ce principe-là, c'est de libérer les adresses IP qui ne sont pas utilisées à un moment donné. Ensuite, une question sur le serveur proxy. Alors je ne sais plus si on l'a vu ou pas, mais je crois que c'était dans votre cours. Donc voilà pour le cours. La question 5, on vous parlait du routeur, pourquoi un routeur a deux adresses, une adresse privée, une adresse publique. Donc c'est une notion qui a été également vue. Ensuite, une question 6 sur les risques inhérents de l'ouverture du réseau local du siège, donc de la société. Donc les précautions qui permettaient de minimiser les risques sont des notions qui ont été également vues, hein, la mise en place d'une DMZ. La demande d'authentification à la connexion et la mise en place d'un VPN. Et la dernière question, alors là vous étiez aidé à l'aide d'une annexe, hein, sur le cloud computing, hein, qui est un concept qui représente l'accès à des informations et services situés sur un serveur distant. D'accord ? Il s'agit en fait d'une externalisation des serveurs et des services rattachés d'une entreprise donnée. Donc en fait, en gros ici, on vous demandait quels étaient les avantages et les inconvénients de ce type d'externalisation. Question qui a été vue également lors d'un devoir, hein, sous une autre forme, sans vous parler du cloud, mais qui a été vue également. Donc voilà pour le commentaire du sujet de cette année. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de surprise sur le contenu. Il était un peu long, mais largement abordable par rapport à certaines années. Voilà. Je vous remercie. Et j'espère que vous avez réussi cette épreuve.